17,3% des jeunes entre 18 et 23 ans de mémoire ont voté aux dernières élections nationales.
Est-ce qu'on peut être un bon citoyen sans s'engager activement?
Quand j'avais 20 ans, je dois dire que j'avais d'autres préoccupations et que pour moi, être citoyen, ça ne voulait pas dire grand-chose.
Salut Mélissa, comment ça va?
Salut Sandrine, ça va et toi?
Ouais, super. Je vais super bien parce qu'en plus, aujourd'hui, on va enregistrer un podcast en live sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je sais que ce sujet-là résonne aussi pour toi.
Oui, tout à fait.
Alors, on va parler de quoi, dis-nous?
De la citoyenneté.
Oh,
mais comment va-t-on en parler? C'est ça qui est intéressant.
Et alors déjà...
Tu
vas nous expliquer comment on va en parler, parce que ça, c'est super important. Mais en même temps, comment on en est venu à imaginer enregistrer un sujet sur la citoyenneté. Ça faisait quelques mois où déjà, ça me trottait dans la tête. L'engagement citoyen vu par les trois générations, etc. Bon, les semaines passent, les mois filent, et du coup, on arrive dans un sujet d'actualité, donc les élections municipales. Et donc, moi, je trouve que la citoyenneté, la clé d'entrée, c'est vraiment le local. Et effectivement, les élections municipales, c'est super important. Et donc, en plus, est venu se rajouter un sondage qui était dans tous les médias il y a 15 jours, 3 semaines, et qui disait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la population française, quelle que soit la génération, seulement 20%...
Ouais. C'était même en dessous, je crois que c'était 17% ou je sais pas quoi.
Ah ben, tu as certainement raison, donc 20 ou en dessous de 20% de la population française qui ne croyait plus en la politique. Alors la politique au sens large. Donc voilà l'idée. Et donc on a sollicité autour de nous des personnes qui sont plus que citoyens, puisque ce sont des élus locaux. Et voilà. Mmh. Et donc du coup, après on va en parler, mais... Et comment on va faire? Comment on va enregistrer et comment on a imaginé cet épisode?
Comme d'habitude, l'objectif, c'était de libérer la parole et que chacun s'écoute. Donc, on a voulu le faire en mode plénière. Et on a fait en sorte d'accueillir des étudiants, mais pas que, enfin des alternants et puis des formateurs ou personnes responsables de pédagogie, etc.
Des adultes.
Des adultes, oui.
En reconversion.
Enfin, des adultes passés, des adultes en reconversion, oui. Des adultes passés, c'est pas ça que je voulais dire. Donc l'objectif, c'était de créer un échange avec le public dont je viens de parler et les élus locaux. De les faire se rencontrer en vrai.
Du coup, on a la chance...
Oui.
D'avoir Jérôme Depont qui est maire de Marchezay et il se présente, donc c'est maire sortant, il a fait deux mandats, il se présente pour un troisième mandat. On a eu Hélène Maison qui est première adjointe depuis également deux mandats, mais impliquée dans la vie de la commune comme conseiller municipal précédemment, donc depuis de nombreuses années. Impliqués dans la collectivité locale.
Donc on a hâte de voir ce que vont donner ces échanges, justement, et on espère qu'un dialogue sera créé, ou en tout cas que ça résonnera, même si c'est chez une ou deux personnes, c'est toujours ça d'acquis.
Voilà, le petit grain de sable.
Oui, exactement.
Allez, on y va?
Ouais, bonne écoute.
Donc le thème de l'épisode aujourd'hui, ou en tout cas de l'échange qu'on va avoir, c'est sur la citoyenneté vue par trois générations. Donc génération X, levez la main. Génération Y et génération Z en masse.
Ouais, une majorité de Z.
Une majorité de Z. Pour enregistrer ce podcast, on a deux invités qui ont pris du temps sur leur emploi du temps qui est aussi riche pour venir échanger avec vous. Donc, on va leur laisser la parole, se présenter et ensuite, je vous expliquerai les thèmes ou en tout cas les chapitres qu'on va aborder dans cet épisode. On commence par les dames. Hélène, est-ce que tu peux dire qui tu es, quel est ton rôle dans la commune et ton métier? Et puis après, on passera à Jérôme.
D'accord. Donc moi, je m'appelle Hélène Maison. J'habite à Marchezais, près de Dreux. Ma profession, c'est agricultrice. J'ai 69 ans, je suis encore en activité. Je suis aussi responsable d'une ferme équestre. Mon rôle dans la commune depuis 12 ans maintenant, c'est d'être adjoint au maire. Auparavant, j'ai été encore 6 ans plus tôt conseillère municipale. Donc voilà, je me sens impliquée dans ma commune.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et alors moi, c'est Jérôme Depontes, j'ai 65 ans, toujours en activité aussi. Je me partage entre deux activités, mais vous verrez au travers de nos discussions qu'elles ont quand même pas mal de choses en commun. Maire du village, puisqu'on vient de vous le dire, donc ça je confirme, depuis une quinzaine d'années à peu près. Élu municipal, toujours sur Marchezais, depuis trop longtemps. Ça fait depuis 1989, donc je pense qu'un bon nombre d'entre vous n'étaient pas nés. Et puis j'exerce par ailleurs simultanément à Paris en qualité d'avocat. Et donc je vais 3 jours par semaine à Paris et 2 jours par semaine ici sur les activités communales et qui débordent sur l'agglomération du Pays de Dreux, sur les syndicats intercommunaux, enfin tout ce qu'est l'intercommunalité, tout ce que vous ne voyez pas mais qui sont des services qui permettent aux collectivités de vivre et d'offrir, bah, par exemple le parc de la radio, c'est l'agglomération du Pays de Dreux par exemple qui entretient et qui maintient ce parc. Voilà, donc je contribue aussi à l'activité de ces instances-là. Et puis bon, ensuite on en discutera plus en détail pour la suite.
Alors Sandrine, pourquoi on a voulu faire cet épisode aujourd'hui ?
Parce que moi, il y a alors les élections municipales qui arrivent le mois prochain. Et donc, les élections municipales me semblent importantes parce que c'est la première clé d'entrée par rapport à la façon dont la France est pilotée. Donc, c'est la première institution et c'est la proximité avec les administrés, comme on appelle, ou les citoyens. Et forte de tout ça, bah, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et là, dernièrement, j'ai eu quelques sondages entre les mains et il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée. Et je me suis dit, peut-être que nous, on a un rôle à jouer aussi en créant l'échange pour que vous en sachiez un peu plus. Parce que seulement 17,3% des jeunes entre 18 et 23 ans de mémoire ont voté aux dernières élections nationales. Alors on peut dire le national c'est loin, etc. Donc j'ai pas trouvé le chiffre sur la collectivité locale, mais il me semblait aussi, alors j'ai posé la question à certains d'entre vous, que vous aviez eu tous des cours d'éducation civique. Et je voulais savoir ce qu'il en restait. Et du coup, un peu le sondage qu'on a fait juste avant que Jérôme et Hélène arrivent, c'est qu'il ne vous en restait pas grand-chose. Donc, quoi de mieux que de poser les questions aux personnes qui incarnent la fonction pour que vous en sachiez un peu plus et que peut-être ça crée des vocations chez vous ou pas. Mais en tout cas, je trouvais que c'était important. Dans notre rôle de transmetteur de compétences, ça fait partie aussi de notre vie quotidienne, que la vie de la cité, parce que politique, ça veut dire vie de la cité. C'est ça ?
Chose publique.
Ah, chose publique.
Aussi.
Bon, ben voilà.
Vie de la cité, chose publique. Voilà.
Voilà pourquoi cet épisode. On va parler sur 3 séquences. La première, c'est quoi être citoyen ? La deuxième séquence, il faut que je tourne la page, c'est confiance ou défiance. Et la troisième séquence, c'est la partie terrain rural, parce que aussi, on a fait un sondage juste avant d'arriver et on est dans une collectivité avec un territoire plutôt rural. Et Jérôme et Hélène sont élus d'une commune dite rurale. OK ? On y va ?
Oui, c'est parti. On commence par la question aux élus.
Quand vous aviez 20 ans ?
Hop, 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 pas de commentaires.
C'est pour ça que j'ai eu du mal à la trouver, cette question. Être citoyen, ça voulait dire quoi ?
Hélène ?
Quand j'avais 20 ans, je dois dire que j'avais d'autres préoccupations. Et pour moi, être citoyen, ça ne voulait pas dire grand-chose. Ça voulait dire... pour moi, c'était être électeur, c'est-à-dire avoir le droit de vote, avoir le droit d'exprimer mon opinion. Et ça se résumait à ça.
Ok. Et Jérôme, oui.
Mais il faut resituer les choses un petit peu dans le contexte historique. Beaucoup de choses en France ont été réglées, ou enfin, du moins influencées, par le début du siècle, enfin, du 1900 et quelques. Il y a eu une première guerre, il y a eu une deuxième guerre. Et vous l'avez apprise dans les livres. Hélène et moi, on est nés juste après la deuxième guerre, finalement. Parce que ça nous paraissait loin quand on est né, mais pourtant, on est né entre 10 et 15 ans après la guerre. Et 10 et 15 ans après la guerre, les familles avaient encore ce qu'on appelait des tickets de rationnement, ce qui n'existe pas, ce que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de biens disponibles sur le marché pour qu'on puisse se nourrir, s'alimenter, comme on le fait aujourd'hui, en allant se servir dans les rayons des supermarchés, d'une manière totalement libre. Il fallait présenter des tickets et on était rationné. Donc c'était un état d'esprit. La société avait été très bouleversée par les guerres et évidemment, la notion de société n'était pas la même que celle qu'on peut voir aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Alors, nous, on a vécu bercés par cette culture-là. Et c'était nos bases. Ensuite, ça a beaucoup évolué. Et c'est vrai que quand j'ai eu 20 ans, la guerre, ça me paraissait très lointain, malgré tout. Et quand j'ai eu 20 ans, j'avais envie d'avoir ma voiture, ma liberté, voyager. Et je me souciais, comme Hélène, pas beaucoup plus de ce qu'était la citoyenneté. J'ai été un peu rattrapé ensuite, parce que, habitant à Marchezais, et mon père étant lui-même déjà conseiller municipal à l'époque à Marchezais, un beau jour, il m'a dit « tu vas prendre le relais, moi j'en ai assez, et tu vas t'intéresser à la chose publique, tu vas t'intéresser à la commune ». Et donc il m'a projeté, c'est comme ça qu'à 29 ans, j'ai été élu pour la première fois. Alors, je ne savais pas très bien ce que ça allait être, hein. J'ai été d'abord sur une liste avec un maire qui m'a dit « tu viens avec moi ». Je ne me rendais pas très bien compte de ce que c'était, et ce n'est qu'une fois que je suis rentré dans le conseil municipal et dans la vie communale que j'ai commencé à voir ce que c'était, et que j'ai commencé à comprendre ce que pouvait vouloir dire le fait de vivre en société, avec effectivement des ressemblances, des divergences, des besoins d'unité. Qu'est-ce qui fait qu'on marche ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a en commun? Voilà, c'est un peu tout ça. Et j'ai commencé à prendre conscience, mais il a fallu que je sois élu pour ça, en fait. Avant, je vivais un peu dans l'insouciance, il faut dire, agréablement.
Alors, moi, je vais aussi témoigner par rapport, ma génération, c'est important aussi. Moi, quand j'avais 20 ans, pour moi, dès que j'ai eu le droit de mettre un bulletin de vote dans une urne, c'était un acte incroyable de liberté pour moi. Très, très attachée à ça. Et j'expliquais que je suis maman d'une jeune femme et qu'à chaque élection, même toute petite, je l'amenais dans l'isoloir, pas pour lui dire ce que je mettais dans l'urne. C'était juste dire qu'il y a des femmes et des hommes qui sont morts pour ce droit à la liberté. Et donc, voilà, j'ai toujours été très, très attachée. Pour moi, de mettre un bulletin dans une urne, c'était devenir libre. Et la chose a fait que, évidemment, on met de l'eau dans son vin après. Mais ça, c'était ma motivation et mon engagement dans la collectivité locale. Il est venu beaucoup plus tard parce qu'il y a un maire qui est venu me solliciter. Et donc, du coup, je dis « Oh, bah oui, pourquoi pas ?» Et du coup, l'aventure a démarré. Et je n'ai pas encore tout décrypté. Mais je pense que ce rôle est important et primordial. Et pour les administrer et pour créer du lien entre les gens, parce qu'on est vraiment la première clé d'entrée. Donc voilà.
Et ce qui va être intéressant, c'est d'avoir votre avis aussi sur ce sujet-là. Donc, est-ce que certains d'entre vous veulent réagir par rapport à la question de qu'est-ce que c'est être citoyen aujourd'hui pour vous ?
Je suis tout à fait d'accord avec Sandrine, ça a été... pareil, j'avais l'impression de me voir. Mes parents m'emmenaient, on allait voter, je rentrais dans l'isoloir, on me disait, voilà, c'est une citoyenneté. Puis Ma mère était très comme ça sur ce côté. Nous, femmes, 44, un droit de vote pour les femmes. Mmh. Nous, femmes, on a le droit de voter. J'ai toujours, même si je vote blanc, je me suis toujours déplacée. Je trouve que c'est essentiel, c'est primordial. Je vais être un petit peu brute de décoffrage. Il y a des gens qui me disent « Ouais, de toute façon, la politique, c'est chiant, c'est ci, c'est ça. » T'as voté ? Non. Bah, tu t'es. Désolé. Si tu as voté, tu peux dire « Je ne suis pas d'accord. » Tu peux participer. Si t'as pas voté, tais-toi. Et je trouve que jusqu'à la fin de mes jours, j'espère vivre vieux et pouvoir aller voter la dernière fois, mais toujours aller voter, même si des fois, je trouve que c'est essentiel et c'est primordial. C'est être citoyen, c'est pouvoir participer, même si on n'est pas élu, mais c'est participer à quelque chose. Et je trouve que c'est essentiel.
Donc participer sous la forme d'aller voter.
Mais être capable de dialoguer, de s'écouter. Et puis de dire, oui, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. D'évoluer des fois. Mm. De dire, ah tiens, oui. Ah, c'est pas bête ce que vous dites ou ce que tu dis. Et puis, le respect. Je trouve que le politique, c'est ça, moi. C'est... Si on veut vivre en société, j'ai bien aimé ce que vous disiez tout à l'heure, société. Vivre en société, c'est vivre les uns avec les autres et ensemble.
C'est joliment dit.
Oui.
Et donc, vous, les jeunes, je peux me permettre ?
Ben oui, mais oui.
Voter, c'est un devoir, un droit ou une illusion ? Allez, votre avis. Alexis, tu penses quoi ? Ça tombe sur toi.
Ben, un droit et un devoir, les deux.
Qui veut intervenir sur... L'acte citoyen. Voter, ça veut dire quoi pour vous ? Allez-y, on est entre nous. Hein.
Ça ira sur Internet après, mais...
Noir.
Droit, du coup. D'accord. Je fais pas de phrase. Je dirais droit, ouais.
Droit ?
Ouais.
Et est-ce que tu peux développer sur le côté citoyen ? Ouais. Ça veut dire quoi pour toi ?
Je peux laisser Antoine développer.
Ouais, si vous allez développer ouais. À plusieurs. Antoine, t'as raison. Toi qui es impliqué en plus. C'est quoi pour toi être citoyen ?
C'est plus un droit, oui.
Le côté citoyen, vraiment.
Ouais, parce qu'on n'est pas obligé, on n'a pas, on n'a aucune obligation d'aller voter. Et du coup, c'est vraiment une démarche de droit.
Oui, mais ça, c'est sur le côté
c'est,
vote.
C'est, à notre échelle, c'est notre participation à la société, à notre participation à la commune, participation à l'amélioration de la société et de la commune.
Moi, je vais vous interrompre.
Allez-y.
Je viens de constituer une liste électorale pour les prochaines élections municipales. Et ce matin, j'ai été la déposer à la préfecture, à la sous-préfecture à Dreux. J'ai donc mes 11 noms. Et j'ai regretté quelque chose... dans mon village, en me promenant et en cherchant à constituer une liste, aujourd'hui en parité, homme-femme, peu importe, c'est de ne pas trouver quelqu'un de 18 ans, puisqu'il faut au minimum 18 ans pour pouvoir participer à un conseil municipal, j'ai pas trouvé quelqu'un de 18 ans disponible et qui a envie de mettre, en plus de ses études, un peu de temps pour partager la collectivité, venir donner ses idées, venir me dire, bah tiens, un village, c'est pas fait pour ressembler qu'aux gens de 60 ans, c'est aussi fait pour nous ressembler quand on a 18 ans, et voilà ce qu'on pourrait faire, ensemble. J'en trouve pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pris par leurs études. Parce que les études, malheureusement, les amènent loin des villages ruraux que sont les nôtres. Et je trouve ça dommage. Donc je me dis, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont été sollicités ? Est-ce qu'il y en a qui se disent, bah tiens, participer à la vie du village, ça peut présenter de l'intérêt ? C'est un peu ça la question, aussi. Je pense.
Oui. Alors la question, c'est absolument ça. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je vais poser une autre question. Qui a déjà rencontré le maire de sa commune ?
Donc là, ça représente la moitié. La moitié. On est combien à peu près ? Une 35 ?
Une trentaine, ouais.
Plus de 30, donc la moitié.
Et donc, vous avez rencontré le maire de votre commune dans quelles circonstances ?
Alors moi, j'ai rencontré le maire de ma commune déjà quand je suis parti voter, mais également quand j'ai acheté ma maison. Parce que quand j'ai acheté ma maison, j'ai dû du coup faire ma demande au niveau de la mairie. Et du coup, c'est le maire qui était là directement pour me recevoir. Okay. Et je travaille également beaucoup avec la mairie de Nevers, donc dans une autre ville, parce que je gère le côté associatif de cette ville.
Vous avez tous votre carte d'électeur ou pas ? Et est-ce qu'elle vous a été remise par le maire ? Elle vous a été mise dans la boîte aux lettres ?
Oui.
Les deux ? Vous n'avez pas eu de réunion, par exemple ? On vous a invité à la mairie ? Si ? Dans certaines mairies, c'est comme ça que ça s'est passé ?
Alors moi, je l'ai directement eu... En fait, le maire de Vernouillet a organisé une réunion. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 2 mois à peine. Ouais. Ils ont organisé une réunion avec tout plein de personnes de mon âge, justement, qui devaient se faire remettre leur carte d'électeur. Et puis en même temps, c'est l'occasion de le rencontrer et également pour lui de nous montrer un exemple, comment faire le jour J. C'est assez sympa. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il a dit de plus? Est-ce qu'il a parlé un peu? Est-ce qu'il y a eu un échange justement sur ça sert à quoi la carte électorale? Ça sert à quoi d'aller voter? Ça sert à quoi d'exprimer son avis dans une ville? Il a parlé un petit peu de tout ça. C'était Damien Stéfo?
C'est ça, c'était Damien Stéfo. On a eu tout le speech justement sur à quoi ça sert, quel combat on menait à ça aujourd'hui, surtout envers le droit de vote pour les femmes. Il y a eu tout plein de choses comme ça.
Est-ce que
c'est
ça
vrai
vous...
que c'est plus sympa, ça nous permet aussi de poser une image au moins sur quelque chose, et même pour lui, ça lui permet aussi de nous présenter son programme, et comme ça de nous éclairer pour les prochaines élections.
Est-ce que les arguments qui sont liés à notre histoire justement nationale vous impactent quand on parle de vote ou pas du tout? Ou alors vous êtes totalement, pas anesthésié de ça, mais ça ne vous impacte pas du tout et vous dites « je m'en fiche ». Ce n'est pas une question piège. Hein. Ou elle n'était peut-être pas claire?
Ou alors, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle de l'histoire, ou en tout cas comment nous, notre citoyenneté, on l'a vécue quand on avait 20 ans, moi j'entends que c'est différent pour vous, mais du coup, est-ce que c'est... Donc vous n'avez pas la référence à l'histoire comme nous, mais est-ce que vous avez d'autres références? Est-ce que vous savez précisément le périmètre des actions d'une collectivité locale comme un maire, un conseil municipal, des adjoints, etc. Est-ce que ça vous parle? Alors, on a entendu de venir déposer une demande de permis de construire, d'être impliqué dans une association de la commune. Mais c'est quoi le rôle d'un maire, d'un conseil municipal dans une commune?
Bah, il va gérer toute la partie des mariages aussi. Du coup, quand on passe au niveau de la mairie, il va y avoir toutes les démarches administratives où c'est lui, pour sa ville, il va les présenter au conseil, je pense, de la région.
Ça s'appelle aller chercher des subventions qui permettent de financer l'action quotidienne. Donc oui, absolument, on va rencontrer les autres strates de la société française ou de la représentation de l'État pour aller chercher de l'argent. Parce qu'effectivement, au niveau communal, les impôts qu'on perçoit ne sont pas suffisants pour faire tout ce qu'on voudrait pouvoir faire. On veut faire un parc de jeux pour les enfants, ça va coûter 20, 30, 40 000 euros. Quand on a un budget de 300 000 euros dans une petite commune, bah, il faut aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir financer tout ça. Donc oui, on fait ça aussi.
Oui, une multitude de travail qui est fait qu'on ne voit pas forcément, je pense.
Moi, je voudrais répondre à Mélissa.
Merci.
De rien. je pense que, enfin, après ça c'est perso. Le début, c'est, je pense que au niveau de notre citoyenneté, comme vous l'avez dit, Sandrine, c'est très, enfin, pas lointain par pour ceux qui sont âgés, mais c'est pas si lointain que ça à notre niveau. Mais je pense qu'en fait, à partir du moment où on arrive secteur lycée, moi personnellement, dès la seconde, on nous bourre tellement crâne avec le baccalauréat, les études sup, qu'en fait tout ce qu'il y a autour, et puis en plus suffit que cas personnel, famille qui est, ou si on veut se faire plaisir, faut travailler. Donc dès les 16 ans, on commence à travailler. Quand on enchaîne travail, études scolaires depuis la première, après au bout d'un moment, on oublie. Pas forcément par pur plaisir, mais on oublie un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que je pense que le droit de vote, des fois, comme certains droits, on l'oublie un peu. Mais je pense que notre génération, avec les réseaux sociaux, c'est pas forcément avec l'histoire nationale du pays, mais je pense que c'est plutôt par rapport aux histoires actuelles avec les autres pays où on se rend compte que des fois, on est là « waouh, ouais ». Moi, des fois, quand je vois, quand je voyais que, par exemple, c'était le Covid, quand je voyais que... En Russie, ça a été limite quasiment un an après connu et personne ne s'était posé les questions de pourquoi il y avait les avions ne venaient plus et venaient plus, pourquoi tout s'était arrêté, parce que les médias sont beaucoup contrôlés dans ce pays. Bon, on se dit, en France, même si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont contrôlées, mais on a quand même le droit d'information et le droit du coup de vote aussi, et de pouvoir dire ce qu'on pense sans avoir des représailles directes, du moins. Donc je pense que ça, on se rend pas compte, ou je pense que des fois, quand on est devant son téléphone, qu'on voit Hugo Décrypte, ou qu'on voit BFM ou Brut qui dénonce ça, on se dit... je pense qu'on a la petite seconde, quelques minutes où on se dit, ouais, quand même, on a de la chance d'être dans un pays où on peut voter.
Typiquement, sur la libération de la parole, effectivement, nous, on intègre un stagiaire qui s'appelle Stanislas au sein de notre asso et qui est un réfugié politique, qui est russe. Donc, s'il est réfugié politique, c'est ça fait partie. Il était journaliste. Donc voilà, ça vient compléter totalement ce que tu es en train d'expliquer, oui. Nous, on n'est pas forcément obligé de partir du pays si on dit des choses qui ne conviennent pas au gouvernement.
Ça. Mais pas que, après, c'est comme dans d'autres pays, quand des personnes vont exprimer une opinion. En France, on n'est pas aussi laxiste sur, par exemple, les armes à feu, mais dans d'autres pays, quelqu'un qui va dire quelque chose qui ne se plaît pas, il va se prendre un coup de couteau, une balle, on va le menacer, on va lui envoyer une pierre dans sa vitre. Enfin voilà, c'est... En France, ça existe, mais c'est quand même bien minime comparé à ce que dans d'autres pays, malheureusement, ils peuvent avoir. Donc, je trouve que le fait d'aller, par exemple, pour les élections, de pouvoir aller dans sa mairie ou de pouvoir, quand c'est, par exemple, présidentiel ou autre, de pouvoir aller voter sans avoir peur de se prendre, se voir ou de subir quelque chose, même si dans certains endroits, peut-être, mais je trouve que c'est quand même... assez rassurant.
Ouais.
Voilà.
Donc là, moi, j'ai entendu, mais en tout cas, vous prenez le prisme un peu plus large. Et si on ramène à la commune, la commune, dans votre quotidien, elle sert à quoi ?
Dans un premier temps, ça va être tout ce qui est, comme tu dis, les aménagements locaux. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un lampadaire, un passage piéton à réaliser, ça va passer par la commune.
Est-ce que l'un d'entre vous peut s'être trouvé confronté à la situation d'avoir un différend, un litige avec son voisin.
Ah, ils font aussi de la médiation, du coup ?
Ah ouais.
Ok.
Ah ouais. C'est une des choses. Les gens viennent, en fait, dans les villages, plus le village est petit, je dirais, plus le maire ou les élus deviennent l'interlocuteur privilégié des habitants, pour prendre des termes très, très génériques. Et ils viennent se confier. Alors, autrefois, il y avait le médecin, il y avait le notaire, il y avait tous ces gens-là aussi, ce qu'on appelait les notables. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de commerce dans les petits villages. Donc, il y a peu d'endroits où il y a un échange possible. Moralité, ça se passe souvent à la mairie. Et à la mairie, les gens viennent. Parfois, il y en a qui viennent me voir. Je ne sais pas très bien pourquoi ils viennent. Parce que leur problème n'en est pas vraiment un. Et une fois qu'ils sont repartis, ils ont toujours le même problème. Mais au moins, ils sont venus en parler. Ils sont venus échanger. Où ils sont venus expliquer qu'ils ont un problème parce que le chien du voisin aboie et qu'il faut que le maire aille dire au voisin de faire en sorte que le chien aboie moins ou que le coq chante moins fort ou que toutes ces petites problématiques de voisinage. Et il n'est pas rare de recevoir les gens et de leur dire « Bon, venez me voir, vous avez un différend, vous n'êtes pas d'accord, venez et on va en parler ensemble. » On essaye de restaurer le dialogue. C'est aussi ça. C'est faire société, c'est faire que les gens se parlent, faire qu'il y ait de l'écoute et qu'il y ait un échange. Et on a aussi ce rôle. Et je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui me plaît dans la fonction de maire, et ça me rapproche de mon métier, c'est que l'avocat, c'est certes l'homme du litige, mais c'est aussi l'homme qui essaye de mettre fin au litige. Parce qu'on reçoit des gens qui sont dans la souffrance, on leur doit beaucoup d'argent, ça leur manque, ils ont besoin de récupérer de l'argent. On leur reproche quelque chose, que l'arbre est trop grand et fait de l'ombre chez le voisin, on leur reproche d'avoir construit sur le terrain d'autrui, on leur reproche plein de choses. Bon, les gens se reprochent toujours plein de choses parce que c'est la vie en société, et la vie en société, ça amène aussi à des frictions. Mais en tant qu'avocat, on est là pour éviter autant que faire se peut de perdre du temps devant un juge, et si on peut trouver un accord amiable, on essaie de le trouver. Et ça, c'est toujours par le dialogue, quel qu'il soit. Donc que ça soit le maire qui, avec ses habitants, essaye de régénérer un dialogue, ou que ce soit l'avocat, c'est un peu la même chose. Et donc, finalement, cet engagement, pour moi, il est un peu pareil. Voilà. C'est un élément que j'aime bien dans cette fonction.
Non, oui, mais j'acquiesce. Alors, moi, je ne fais pas le même lien avec ma fonction. Moi, c'est plus... c'est un peu différent. Et j'aimerais qu'on écoute Hélène, parce qu'elle a une belle expérience aussi. Toi, c'est quoi ta fonction ?
Alors, moi, ma fonction, c'est de... c'est l'adjoint de Jérôme. Donc, je supplée à toutes ses fonctions, plus ou moins, moins sur l'extérieur et sur l'agglo, un petit peu quand même, mais pour moi c'est plus au niveau local, surtout du fait que je travaille et j'habite sur la commune, donc j'y suis pratiquement en permanence. Donc voilà, s'il y a un petit souci, si Jérôme ne peut pas être là, et je reconnais qu'il fait le maximum pour être là, souvent c'est vers moi que les gens se tournent. Donc ça peut être pour une petite chose, je sais pas moi, un début d'incendie, un litige, un problème comme de chien, comme vous dites. Enfin bon, des
la clé d'entrée, c'est souvent les problèmes.
Hein. Ou alors un retard sur le bus scolaire, ou voilà, des choses simples. Ou alors un manque potentiel d'entretien, alors que non, le village est bien entretenu. Mais voilà, c'est plus sur les petites choses du quotidien. Après je participe aussi à tout ce qui est externe. Mais voilà, pour moi, l'adjoint, il doit aider le maire. Voilà. Donc, c'est un peu les mêmes missions, mais pour moi, c'est plus à l'échelle locale.
Et alors, ce qui est important, et là, ça fait une transition toute trouvée, c'est qu'effectivement, il y a le quotidien, la mairie, la commune, mais dans la façon dont est organisée les institutions, chaque commune est représentée sur les institutions à un niveau. Alors, je ne sais pas si on peut dire au-dessus, mais au niveau de l'agglo. Donc, l'agglo, là, on est dans des locaux de l'agglo. On va faire un salon organisé par l'agglo. Donc, ce mot agglo, vous l'avez entendu très régulièrement. Et donc, pour le salon, on a une classe qui a travaillé sur la sécurisation du salon des MOS avec l'agglo. Est-ce que, en quelques mots, comment c'est organisé? Une fois qu'on a le conseil municipal, que la liste a été validée, on est élu, comment ça se passe après notre représentativité sur d'autres échelles?
En fait, tout est découpé en mille feuilles, comme on a tendance à le dire. La commune, on s'occupe de tout ce qui est très local. Mais, donc, effectivement, l'état civil, les mariages, c'est le maire. La tenue de l'état civil, c'est-à-dire que quand vous naissez, il y a un registre qui est tenu et on inscrit les naissances. Et ça va comme ça jusqu'au décès. On est consulté également pour tout ce qui est décès accidentel sur la commune. Le maire est le premier appelé, ou son adjoint, peu importe, quand il n'est pas là, pour constater un décès. Ce n'est pas la partie la plus amusante. Ou pour annoncer également, faire le relais de l'information que les gendarmes ou les forces de police doivent avoir vis-à-vis de la population. On est ce relais, on est censé le faire. Bon. Il y a plein d'autres activités sur l'entretien de la commune, la voirie, les bâtiments communaux, etc. On gère tout ça. Mais aujourd'hui, une commune, une fois qu'elle a géré ça, géré son cimetière, géré son église et ses bâtiments et ses rues, son éclairage public, bon, on a fait un peu le tour de la question. Parce que pour avoir plus d'efficacité, l'État et la loi ont décidé que des compétences allaient être transférées à des collectivités plus larges. Par exemple, si on parle de tout ce qui est transport d'électricité, eh bien, c'est les communes qui, à l'origine, ont la responsabilité. Elles se groupent à plusieurs communes et elles organisent le transport d'électricité entre elles. Les fluides, vous avez l'eau, par exemple. Vous avez un syndicat intercommunal qui va regrouper plusieurs communes et qui vont organiser un forage et la distribution de l'eau potable jusqu'au robinet que vous avez chez vous. C'est vrai que quand vous ouvrez le robinet, vous ne vous rendez pas compte que derrière, il y a un groupement de communes et un syndicat qui organise, qui investit pour la création de réseaux et de façon à s'assurer que l'eau qui vous est livrée soit toujours de qualité. C'est vrai pour le ramassage des déchets, pour un tas de choses comme ça. Et vous avez une strate encore au-dessus, qui est donc l'agglomération. L'agglomération, donc pour nous, celle du pays de Dreux, elle regroupe 115 000 habitants et 81 communes qui vont en gros de Maillebois jusqu'aux portes du Houdanais, et à la moitié de la distance entre ici et Chartres à peu près, et jusqu'à l'Eure dans l'autre sens, commune de l'Eure, Vérézy. Et l'agglomération de Dreux va exercer plusieurs compétences, c'est-à-dire le développement économique. Donc ça va vous intéresser parce que dans le cadre de vos études, vous allez nécessairement vous intéresser au développement économique, à l'emploi, à tout ça. Et donc l'agglomération peut, par son action, essayer de développer l'économie. Par exemple, ici, vous avez un ensemble de bâtiments qui appartenait autrefois à Philips, qui fabriquait des téléviseurs. C'est pour ça qu'on appelait ça la radiotechnique. C'était effectivement l'endroit où étaient fabriqués la plupart des téléviseurs qu'on vendait en Europe. Puis un beau jour, l'écran cathodique a disparu, a laissé place à l'écran plat, et c'est en Chine que ça s'est fabriqué, et puis à Dreux. Moralité, ces bâtiments se sont retrouvés vides, et Philips a déserté les lieux. On s'est retrouvé avec une friche industrielle, plus d'entreprises, plus d'emplois, 600 personnes au chômage. Eh bien, l'agglomération du pays de Dreux, à ce moment-là, à l'époque elle était plus petite, mais peu importe, c'est quand même l'agglomération, a racheté l'ensemble des bâtiments et a dit, eh bien, on va essayer de faire un parc d'entreprises, on va faire venir des entreprises, une école de formation, de la restauration, de la logistique, peu importe, faire venir des entreprises pour créer de l'emploi, pour qu'il y ait toujours une dynamique économique sur le territoire. Donc ça, c'est une des missions importantes de l'agglomération. Autre mission importante, le transport. Si vous pouvez aller à l'école, enfin à l'école, c'est au sens général, hein, c'est pas à l'école primaire, mais ça concerne le primaire, le secondaire, tout ce qu'on voudra, les transports intra-urbains ou extra-urbains, c'est l'agglomération du Pays de Dreux qui organise ces transports. De la même manière, la distribution de l'eau est faite par l'agglo et la gestion des déchets est faite par l'agglo. Et puis l'agglo s'occupe aussi du culturel. Vous avez peut-être entendu parler de l'atelier à spectacle à Dreux. C'est un bâtiment qui appartient à l'agglomération et qui fait une programmation culturelle pour la population. Et puis plein de services à la population, la gestion des deux piscines du territoire pour que les enfants apprennent à nager et que les gens puissent aussi profiter d'un peu d'espace ludique. Voilà. Il y a d'autres activités dont s'occupe l'agglomération. Et puis indépendamment de ça, vous avez le département. C'est encore une autre structure au niveau national. Le département s'occupera, lui, de la gestion des collèges, de la gestion des routes, de la gestion de l'aide sociale, le RSA, toutes ces choses-là. C'est le département qui s'occupe de ça. Et à chaque fois, vous avez des élus qui se dévouent et qui vont participer à ces différentes instances. Voilà. Donc pour la strate locale, je dirais, il y a la commune, quelques syndicats intercommunaux. Par exemple, on a besoin d'écoles pour les petits. Dans une commune comme Marchezais, on a 400 habitants, on n'a pas de quoi avoir une école, parce qu'on aurait 25 élèves, et puis on fait quoi avec une école avec 25 élèves? Pas grand-chose. Donc on se groupe à plusieurs communes, dans un syndicat intercommunal, et ce qu'on appelle aujourd'hui un regroupement pédagogique, et on construit une école, et les différentes communes, on est 5 communes en l'occurrence, mettons tous les enfants dans la même école, et comme ça a du sens de regrouper nos efforts. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les communes individuellement n'ont plus beaucoup de compétences, mais ça se fait sur les différentes strates intercommunales, agglo, département ou autre. Voilà. Ça répond à votre question ?
Ah mais super. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous par rapport au fonctionnement Donc en fin de compte, dans le quotidien, en plus de la gestion de journalière de la commune avec les administrés et ce qu'ils peuvent rencontrer comme besoin, il y a toute la représentativité dans ces structures, ce millefeuille, et donc ça prend beaucoup de temps. Chacun d'entre nous, et pour des communes rurales, c'est comme on est peu nombreux, est-ce que aussi par rapport au nombre de personnes dans les conseils municipaux, c'est le nombre de personnes est déterminé par le nombre d'habitants dans la commune. Donc moins il y a d'habitants, moins il y a de conseils municipaux où il y a plein de gens. Pour exemple, dans une commune rurale comme la nôtre, 400 habitants, il y a 11 personnes, en intégrant le maire, il y a 11 personnes 11 conseillers municipaux, et ces 11 conseillers municipaux, il faut qu'ils aillent dans les commissions du développement économique, des syndicats sur l'eau, d'électricité, etc., etc., et on n'a pas tout cité. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps, quand même.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que après notre échange aujourd'hui, il y en a parmi vous, d'abord, qui alliez voter, ça c'est important, parce qu'il y a les élections qui approchent le 15 mars, donc pour donner de la légitimité aux élus, bien sûr, mais ça, chacun le fera en son âme et conscience. Mais au-delà de ça, c'est que ça vous donne aussi l'envie de vous engager, d'une manière ou d'une autre, dans vos communes, pour leur donner vie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être élu à proprement parler, mais vous pouvez appartenir à des associations, vous pouvez participer à un comité des fêtes, vous pouvez avoir une aide sociale. Il y a 36 façons de se rendre utile et d'apporter un service aux autres. Et je peux vous dire que ça donne une satisfaction. Alors, c'est pas égoïste, c'est pas le goût du pouvoir, c'est pas ces choses-là, mais c'est pouvoir apporter un peu de bien-être aux autres, ou du confort aux autres, et de le faire bien. On rentre chez soi, on se dit, bah, j'ai essayé d'être utile dans ma vie. Et c'est pas désagréable. C'est un sentiment qu'il faut prendre un peu de recul et un peu d'expérience dans la vie pour pouvoir commencer à l'avoir. Mais quand on l'a, on se dit, bah, on a rendu service. Et si on a pu rendre quelqu'un plus souriant, moins triste, plus mobile, peu importe, pendant Covid, qu'est-ce qu'il citait Covid tout à l'heure, je crois que c'est toi, il y avait une entraide extraordinaire. C'est là où l'État s'est rendu compte que 36 000 communes en France, multipliées par le nombre d'élus dans chacune des communes, c'était autant de travailleurs sociaux gratuits, qui ont pu aller porter des repas, aller déplacer des personnes âgées, aller secourir les uns et les autres en période de crise. Et la pandémie, c'était quand même une crise comme on n'avait jamais connue en France. Donc, on s'est rendu compte que les communes, ça avait du sens et que ça pouvait apporter de l'aide. Et l'État a beaucoup révisé sa position à faire disparaître les communes. Aujourd'hui, l'État aime bien se reposer sur l'existence des communes, justement pour être en proximité. Et pour ceux qui le font, bah, c'est pas désagréable, finalement, d'avoir le sourire de l'autre en face quand on a pu lui apporter un petit quelque chose. Et ça fait du bien. C'est peut-être un peu égoïste, mais ça fait pas de mal.
Non, moi, je crois pas que ça soit égoïste.
Non, ouais. Tant mieux, alors.
Non, je crois pas que ça soit égoïste. De donner sans rien attendre en retour, bah, ça, c'est des missions qu'on connaît bien. Mais en même temps...
Ça rend dans la citoyenneté.
Et puis, en même temps, ça donne vraiment du sens. Alors, vous êtes une génération qui avait besoin de sens. En tout cas, qui priorisait le sens par rapport au travail, mais je vous garantis que effectivement de s'impliquer, ça donne du sens, ça fait écho.
L'idée, c'est sur une seconde partie aussi. Certains d'entre vous ont préparé des questions, mais oui. Peut-être que vous avez eu des questions qui sont venues au fur et à mesure de cet échange. Il faut vraiment profiter d'avoir la présence d'Hélène et de Jérôme avec nous. Vous savez très bien que c'est un podcast qui est sans filtre à partir du moment où ça reste dans le respect, etc. Donc, est-ce que vous auriez des questions ou que vous aimeriez poser, sur lesquelles vous aimeriez que tout le monde participe?
Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle parce qu'on se connaît, on se pratique assez de manière hebdomadaire. Et je trouve que, du coup, vous êtes plutôt... sur vos gardes, etc. Ouais. Et que la posture, ou en tout cas l'incarnation de la collectivité locale, c'est quelque chose qui est peut-être impressionnant. Parce que je vous...
Où il y a une certaine méfiance.
Ou alors le sujet ne vous intéresse absolument pas, je ne sais pas. Mais je crois que oui, que vous êtes intéressé par le sujet. Mais posez des questions. Qui a préparé des questions? Je crois que Fadi a préparé des questions. Ouais.
Moi, j'avais une question sur le rôle du citoyen. Est-ce que est-ce qu'on peut être un bon citoyen sans s'engager activement?
Oui. réponse directe. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon citoyen. Chacun est comme il est. Ceux qu'on va repérer, c'est ceux qui sortent du rang, ceux qui se singularisent. Et qui se singularisent en général en devenant hostiles à la société. Il y a 10 000 façons d'être hostile à la société. Ça peut être, c'est toute la délinquance au sens large du terme. Ceux-là, effectivement, on les identifie et on va les qualifier de mauvais citoyens parce qu'ils ne respectent pas la règle commune, parce qu'ils ne font pas société, finalement. Ils se marginalisent d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut dire que ceux-là ne sont pas de bons citoyens. Mais je ne saurais pas dire ce qu'est un bon citoyen. Par définition, tout le monde l'est. En tout cas, tout le monde est préjugé être un bon citoyen de base. Ensuite, il y a ceux qui se mettent sur la touche. Et le rôle qu'on peut avoir dans ces cas-là, et là je reviens encore avec ma casquette ou ma robe d'avocat plus précisément, c'est que ces gens-là, il faut essayer de les aider à revenir dans la société. Parce qu'ils en font partie. Alors c'est un autre débat.
Oui.
C'est un autre débat, il sort, mais enfin, en même temps il touche la citoyenneté au sens large. C'est le débat sur la sanction et le fait de mettre quelqu'un en dehors de la société. On va mettre quelqu'un en prison. Tout le monde réclame aujourd'hui des sanctions exemplaires et la mise en prison des délinquants. Bon. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont fait et purgé une peine en prison pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans ? En général, on s'aperçoit qu'en prison, ils apprennent la récidive. Et que quand ils reviennent dans la société, ils ont l'amertume des 10 années passées en prison et ils ne savent pas s'en sortir parce que la prison n'est pas faite pour réinsérer. Donc effectivement, faire société, c'est peut-être aussi leur apprendre à redevenir de bons citoyens et comment se réintégrer dans la société, comment être accepté dans la société. Parce que celui qui sort de prison, on le pointe du doigt, alors qu'il a purgé sa peine, il est censé être redevenu blanc, et, entre guillemets, et alors qu'en réalité, on continue de le pointer du doigt, parce qu'il a fauté dans le temps. Oui, mais il a payé. Et le fait d'avoir payé, ben, ça devrait nettoyer son passé. Et ça, on ne sait pas faire. On a beaucoup de mal à le faire. Intellectuellement et socialement. Donc oui, voilà. Pour essayer de répondre à ta question.
Et j'avais une autre question, c'était par rapport aux élus. Qui sont les acteurs clés autour d'un élu
à l'échelon communal. À l'échelon communal, si on prend l'élu qu'est le maire, d'abord, seul, on n'est jamais rien. C'est une équipe. Alors là, je viens de déposer, je le disais tout à l'heure, ma liste avec mes adjointes numéro 1, numéro 2, et on est reparti pour un tour, je l'espère. Puis on verra bien ce que donne le vote dans quelques jours. Mais seul, on ne fait pas. Donc on a besoin des autres élus. On a besoin des relais que sont le personnel de la commune. Ce n'est pas moi qui taille les arbres, ce n'est pas moi qui tond les pelouses, ce n'est pas moi qui fais le secrétariat. Il y a une secrétaire de mairie qui vient à temps partiel, mais qui est quand même là. Il y a un employé communal qui s'occupe de l'entretien des espaces verts, des voiries, etc., qui, lui, travaille à plein temps pour la commune. Donc, c'est des relais indispensables. Donc, les élus, les autres donc, salariés, et puis toutes les personnes, les bénévoles. Je citais tout à l'heure le comité des fêtes ou les associations, l'association sportive, des gens comme ça, créent un relais de l'action publique. D'une manière ou d'une autre, ils rapprochent la population de la mairie de la population, et surtout les gens entre eux. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc ça, c'est... Seul, on ne fait rien. Seul, on ne fait rien. On peut gesticuler tout seul. Alors qu'avec les autres, on fait une équipe et on peut avancer. Donc ça, c'est efficace. Enfin, je l'espère.
J'avais une question. On a parlé du fait d'être dans un comité des fêtes ou autre, mais est-ce qu'il y a d'autres dispositifs pour que justement les jeunes soient un peu plus présents justement dans la vie locale ?
Tout le tissu associatif. Mais Hélène aime bien le tissu associatif, elle aime bien en parler. Et alors elle répondrait que sans le tissu associatif, il n'y a pas grand-chose. Donc je préférerais qu'elle réponde sur ce sujet-là.
Répondre directement.
Voilà.
Bon, dans certaines communes qui sont un peu plus importantes que la nôtre, il y a aussi des conseils municipaux des jeunes. Et ça, c'est un bon point de départ pour justement s'intégrer dans un groupe et puis analyser les besoins des citoyens, les besoins de la commune. Donc ça, c'est pas à notre échelle parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais c'est vrai que je trouve que c'est une excellente idée, ça. Ensuite, il y a toutes les associations. Et les associations, eh bien, elles sont composées de bénévoles. Et en général, une association, ça a un but non lucratif, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est là pour rendre service aux gens. Alors, il y a plein de domaines. Hein. Moi, je fais partie d'une association de gîtes ruraux, par exemple, parce que j'ai un gîte rural, donc je fais partie de l'association. Et donc, on essaie de trouver des choses qui vont aider les membres. Mais au-delà de ça, c'est pour faire rayonner aussi mon label. Bon, c'est Gilles de France, pour ne pas le nommer. Mais voilà. Et ça, c'est une association qui réunit des gens qui vont travailler ensemble. Et on est tous bénévoles, bien sûr. Après, sur la commune, il y a une association donc, qui est le comité des fêtes. Et une autre association qui est pour la gym, le sport. Et bien alors là, je peux vous dire que les gens qui se retrouvent là, ils sont contents. Ça leur fait du bien, ça les détend. Et il y a plein de sujets comme ça. Hein. Après, ça peut être à caractère, je ne sais pas, moi... religieux, ça peut être... Enfin, il y a tous les niveaux. Et là, je pense que sans ça, évidemment, il y a tout ce qui est officiel, organisé. Et sans ce tissu associatif, il y aurait moins de vie dans les villages et dans le pays en général.
Vous avez tous les ans, en général, à l'automne, au moment de la rentrée scolaire, dans les communes, un forum des associations. C'est très répandu quand il y a plusieurs associations, donc dans, comme Vernouillet par exemple, je suis Dreux, ou Dan, je ne sais plus qui travaille, ou Dan Le Houdanais, je crois qu'il y a quelqu'un.
C'est moi.
Voilà. Non mais ça, la boîte, je me souviens. Mais bien sûr, on se voyait quand même tout le temps. Et le forum des associations, ça permet effectivement à ce que toutes les personnes qui sont intéressées par une pratique sportive, par n'importe quoi, de se retrouver et de partir ensemble pour un an. Donc c'est un merveilleux lien dans la société. Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Et comment on pourrait faire pour... qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez... je ne vais pas réussir à le dire. Intéresseriez à la vie de votre village, de votre ville, etc. Comment on peut faire pour vous impliquer, vous ? Parce qu'effectivement, ça a été dit, je ne sais plus par qui, mais quand on pense activité locale, souvent on se dit, c'est pas pour moi, c'est pour des personnes d'un certain âge, etc. Mais alors, comment faire
pour... Elle est dire âgée, hein.
J'ai dit, non. Donc, comment faire pour vous impliquer, vous, et qu'est-ce qui vous donnerait envie de devenir acteur de cet écosystème ? Elle n'est pas compliquée, ma question. À chaque fois, vous ne répondez pas.
Moi, je vais répondre.
Mais ne soyez pas timide.
Je vais répondre parce que moi, je vous vois tous, je vois tous vos yeux. Alors, je ne viserai personne, je vais regarder dehors, loin. Mais en regardant vos yeux dans la salle, déjà, je sais qu'il y a 3-4 personnes dont le regard manifeste qu'ils pourraient peut-être, dans leur commune, s'investir ou se dire, tiens, ça, il peut y avoir un intérêt.
Alors,
donc, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont cet intérêt. Maintenant, lesquels, je ne dis pas.
Mère et mentaliste, il faut le dire, Jérôme.
Je ne dis pas.
On veut savoir.
Non. Je ne dis pas, non. Non, on a dit sans jugement et dans le respect. Donc, c'est sans jugement et dans le respect. Mais je suis certain que parmi vous, il y en a qui sont... qui peuvent s'intéresser assez facilement.
Alors, on avait enregistré un podcast sur l'investissement et le monde associatif et plutôt basé sur le sport ou sur des activités diverses et variées. Mais certains d'entre vous, oui, vous êtes impliqués dans une association. Et aujourd'hui, ce qui était important, c'était la collectivité... Allez voir vos mairies si vous avez des idées. Allez échanger avec vos maires, avec les personnes qui sont au conseil municipal. On a besoin d'idées. On a besoin de bras.
C'est ce que ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour...
Je ne leur pose pas la question. J'ai dit, allez-y.
Si, c'est sans filtre. Il faut aussi qu'on les écoute, qu'on comprenne quelles sont leurs attentes et tout.
Ils ne connaissent pas. Je pense que ça vous fait peur. L'idée ?
Ça peut ne pas vous intéresser.
Noah a dit un mot, donc vas-y. Alors, trop de personnes âgées.
Mais c'est quoi le problème qu'il y ait des personnes âgées, sans blague ?
Je m'ennuie.
Mais pourquoi tu t'ennuies ? Parce que justement, il n'y a pas d'activité.
Des vides greniers où il y a tout le temps des grands-parents qui vendent des choses, ou encore une salle communale vide comme le City, par ailleurs.
Ok, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu t'ennuies pas ?
J'en sais rien, moi j'ai pas de solution, juste j'aime me plaindre, donc...
Tu te plains, mais tu proposes pas de solution.
Amener des jeunes, mais je vois pas comment, je sais pas, peut-être faire...
Mais pour faire quoi ?
Plus d'activités.
Mais c'est quoi comme activité ?
Elle va te frapper, hein.
Elle aime pas les jeunes.
Non, je ne suis pas violente.
Mais ne le mettez pas sous pression, mais moi j'aurais adoré. J'ai eu quelqu'un qui avait, je sais pas, 14 ans, 15 ans, même pas, qui est venu me voir. Qui est venu me voir et qui m'a dit moi j'adore le vélo, je suis passionné de vélo, je vais en faire ma vie. Très bien. Et il l'a fait d'ailleurs. Et il me dit on n'a pas d'activité pour le vélo dans le village, est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose ? Je dis ok, propose-moi quelque chose. Et il est venu me voir avec un petit dessin en mettant un terrain de BMX. Et je me suis dit c'est quelque chose qu'on peut réaliser pas cher. Il suffit qu'on prenne un peu de terre, qu'on la pousse et qu'on fasse des bosses. Et on a fait un petit tour de BMX comme ça. On a mis un petit peu d'argent dessus. Et lui a pris l'engagement de l'entretenir. Le problème, c'est qu'il a grandi, il a quitté le village depuis. Mais en tout cas, pour tout le temps où il a été là, il s'en est occupé, il a fait en sorte que ça vive. Il a apporté à sa commune. Et aujourd'hui, il y en a qui vont faire des tours sur ce terrain de BMX, sans savoir que c'est lui qui l'avait fait, mais peu importe. Ça a créé une activité. Il s'est investi, il est venu. Et je suis sûr que dans ta commune, si tu allais voir le maire en disant ben, « je m'emmerde, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'activités qui me ressemblent », ben, c'est ça l'échange dont on a besoin aussi.
Il n'y a pas assez de proximité entre...
Mais il faut la créer, la proximité.
Ouais, mais elle est très fermée, on dirait une secte, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est très fermé.
Est-ce que j'ai une tête de gourou?
Non, mais le truc, c'est que la salle communale est tout le temps remplie par 20-30 personnes, alors qu'on est 3000. J'ai l'impression que c'est très fermé, en fait. Il y a très peu de communication. Il se passe des choses, mais c'est pas...
Il faut oser ouvrir les portes. Faut oser ouvrir les portes.
Ça manque de connaissances.
Quand j'étais, on revient à quand j'avais moins de 20 ans, j'étais timide. Je n'osais pas ouvrir une porte, je n'osais pas aller dire quelque chose à quelqu'un. C'est infiniment plus facile aujourd'hui de franchir cette porte, de vous rencontrer, d'échanger avec vous. J'ai plus la timidité que j'avais à l'époque. Donc je sais que ça peut être difficile. Mais néanmoins, quand on franchit une porte et qu'on va apporter une idée, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui dise « dégage ». Ça m'étonnerait. Parce que les idées, elles sont toujours bonnes à prendre. Elles sont bonnes à valoriser. Alors, tout n'est pas valorisable facilement, etc. Mais au moins échanger, pousser une idée. Ce que tu viens de faire. Mais tu l'as fait vis-à-vis de moi, fais-le vis-à-vis de ton maire.
J'ai pas donné d'idée. Plus de Pokéstop, mais à part ça... Non, je n'ai pas d'inspi, moi.
Mais c'est déjà bien d'avoir identifié. Ouais. Encore une fois, tu identifies beaucoup ce qui ne te convient pas, pour rebondir sur ton podcast. Oui.
Ouais. Je suis pas très attaché à mes voisins, mais moi j'aurais essayé quoi.
Moi je fais partie du comité des fêtes d'un village et du coup on essaie de trouver des activités pour tout le monde et justement votre population, vous les jeunes, c'est très très compliqué parce qu'on est nous on est déconnectés de ce que vous aimez et vous venez pas vers nous. Et quand on vient vers vous, vous n'avez pas envie, clairement. Donc, on fait des activités pour des gens de notre âge, pour les enfants pour Noël, pour les plus anciens. Mais c'est vrai que on ne sait pas, en fait. On ne sait pas quoi vous proposer. Et on a du mal aussi à ce que vous veniez vers nous. Donc, allez-y, venez proposer. On ne demande que ça.
Moi, je trouverais en fait que notre génération faudrait juste pas nous laisser le choix.
Ah oh, bah.
Non. Donc quand je dis qu'on devrait pas nous laisser le choix, c'est dans le sens, c'est pas on nous oblige, on vient nous toquer à la porte et on nous dit tu fais ça, tu feras ça. Mais c'est par exemple dans mon origine, quand on fait nos fêtes du village, et pourtant dans mon village, on est à peine, enfin ils sont à peine une cinquantaine à l'année, et quand nous on y vient, on est quasiment 500, 600 l'été. C'est il y a un système de nomination, et c'est dans ça que je dis de ne pas nous laisser le choix. C'est que par exemple, pour un comité des fêtes, moi je prends l'exemple de mon village quand il y a la brocante. Oui, c'est ça, la brocante.
Oui.
Quand il y a la brocante qui a été faite il n'y a pas longtemps, moi, quand j'ai vu les gens qui étaient derrière le bar, c'était quasiment que des personnes de la génération XY.
Ça dépend peut-être du Y aussi.
Oui, il y avait les deux. Mais par exemple, ce que je trouvais dommage, c'est que donc, le village qui est beaucoup plus grand à côté de chez nous, celui d'Annette, il y avait beaucoup plus de génération Z qui étaient présentes parce que c'était... parce que justement, on était venus les nominer, les chercher. On a été demandé aux parents qui y sont de donner des noms de jeunes pour essayer de leur demander de venir participer à la vie de la commune. Et ce que je trouve, enfin pas dommage, hein, je dis pas que c'est la faute du tout des personnes qui dirigent nos communes, mais c'est ce système de nomination, de dire là on organise un truc, toi un tel, vous venez. Et le fait aussi, par exemple, c'est justement le combat qu'on est en train de mener dans mon village d'origine, c'est qu'en fait, c'était que majoritairement des personnes âgées, d'un certain âge, qui le faisaient, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, porter des fûts, porter des palettes, monter des tentes, faire le service de 17h à 10h du matin, c'est juste plus possible à un certain âge. Et que justement, nous, les jeunes, il n'y en avait quasiment pas, en fait. On voyait ceux qui restaient de surveiller de 6h à midi. C'était une personne qui était même des fois plus âgée que mes propres parents. Et en fait, à un moment donné, ce n'est pas normal. Et du coup, on essaye de faire venir plus de jeunes. Maintenant qu'on est, nous, notre génération, on devient majeur et majeur plus. et ben on majeur tout court, et ben on voilà, on essaye d'inviter nos cousins, on essaye d'inviter des amis, et puis du coup je pense que si on commencerait à faire ce système là, et ben on essaierait, par exemple là mon père il se présente dans cette fameuse liste des 11 personnes, et ben justement moi il me dit tu viendras m'aider, oui, mais justement peut-être que là je le fais oui comme ça, et que quand il va me dire je vais faire ben je vais venir, voilà, c'est quand mon père il me dira tu viens, ben je viens, et je trouve que si on commence à faire ça, ben après ils vont en prendre goût, puis après ben oh il y a un ami qui va venir nous aider, puis après il y a du village, enfin voilà, ça va se tourner comme ça. Donc en fait dans ce système de ne pas laisser le choix par des nominations, ça peut être un certain système qui pourrait faire que les gens bougent.
Est-ce qu'on a fait le tour?
Oui. Est-ce que pour certains ça vous permet de réfléchir et de vous dire ok, je vais peut-être m'impliquer un peu plus localement ou pas.
En tout cas, quel que soit votre choix, nous on sera venus vers vous déjà. Ouais. Faut de vous venir vers nous et j'espère que le jour où vous allez ouvrir ou prendre rendez-vous avec la mairie ou passer dans les aires de permanence, et ben vous aurez un petit warning de ce temps passé ensemble en 2026 au parc de la radio de Dreux. Le mot de la fin ?
Tout simplement, moi je pense que en fait la barrière qu'il y a entre les jeunes ou tous les habitants et les municipalités, c'est le manque de connaissances. Donc je crois qu'il faut simplifier les choses. La porte de la mairie, elle est régulièrement ouverte. Il ne faut pas hésiter à la pousser et parler ou poser des questions. Mais je crois que c'est ça, il ne faut pas hésiter. C'est tout simple, c'est... Voilà, oser.
Juste, et ce que Hélène dit est très important. Vous savez que quand il y a des conseils municipaux, vous pouvez y participer. C'est la loi. Si vous êtes, normalement, on publie les dates de conseil municipal et vous pouvez y participer. Et ce qui est intéressant, vous ne pouvez pas voter sur les décisions prises en conseil municipal puisque vous avez voté sur la liste, mais vous pouvez aller voir ce qui se passe, comment ça se passe. Et ça, si vous avez ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, faites-le. Parce que peut-être que vous allez comprendre aussi le rôle, parce que dans la commune, il y en a beaucoup qui râlent et quand ils viennent passer un peu de temps dans le conseil municipal, ils disent « Ah ouais, quand même !» Vrai ou faux ?
Certainement.
Donc du coup, voilà, allez voir comment ça se passe et n'hésitez pas. Et en général, les communes, il y a toujours des sièges à côté le soir du conseil municipal pour des jeunes ou des moins jeunes qui veulent venir en savoir un peu plus. Voilà, mot de la fin.
C'est ouvert à tous, hein, donc quand vous siégez en conseil municipal, ils peuvent venir vous voir.
Ah non, c'est ouvert... venez. Alors, venez dans la commune de Marchezay au prochain conseil municipal, il y en a un qui va être super content. Enfin, on a une belle salle de fête, on a de la place, mais je pensais que non, c'était que les administrés... Le ah d'accord, ben, je ne savais pas. Vous voyez, je ne sais encore pas plein de choses.
Mais non, le mot de la fin, c'est d'abord c'est que je n'ai pas envie de le faire, parce que c'est déjà la fin, et que finalement, c'était vraiment sympathique de pouvoir échanger, moi j'aime bien. Donc, de ma part, le mot de la fin, c'est de vous dire merci de nous avoir accueillis, de nous avoir écoutés, d'avoir échangé avec nous. Voilà.
Merci à tous les deux d'être venus. Merci.